Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous recevoir sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour une nouvelle chronique économique qui me donne le plaisir d'accueillir deux éminents experts. Philippe Dessertine, qui est professeur d'université et directeur général de l'Institut de haute finance, entre autres auteur. Et Nicolas Bouzou, qui partage à peu près les mêmes expertises, économiste, président d'entreprise. Et tous les deux, vous avez en commun d'être vice-président du Cercle Turgot et d'être des chroniqueurs et des auteurs de talent. Alors, nous allons aborder un sujet qui est en pleine actualité, que la crise, on va dire, et la problématique du pouvoir d'achat a mis sur le devant de la scène. Il s'agit du rééquilibrage et du partage de la valeur ajoutée et des profits en faveur des salariés. Alors, je vais très très brièvement poser le problème. Comme vous le savez, le président de la République a demandé à Jean-Philippe Cotis, le directeur général de l'INSEE, de produire un rapport sur ce sujet. Les conclusions de ce rapport étaient particulièrement attendues par tous les acteurs et les partenaires qui pensaient trouver dans ce sujet des réponses à leurs interrogations ou à leurs certitudes. Le rapport est sorti. Alors, Philippe, je commence par vous. Vous avez participé à l'élaboration de ce rapport. Je vous laisse en donner les premières conclusions, en sachant qu'on pourra à ce moment-là rebondir sur les autres points. Le grand point qui est sorti, qui était une surprise, c'est qu'en définitive, le partage de cette valeur est resté stable au cours des temps.
Oui, voilà.
On ne va pas dire au cours des siècles. Hein,
oui, oui, quand même pas. Mais on va dire que c'est un rapport qui était réalisé par l'INSEE, donc réalisé sur la base des statistiques nationales économiques dont dispose l'INSEE, avec dans les travaux préparatoire, et c'est à ce niveau-là que personnellement j'y ai participé, l'intervention d'un certain nombre de partenaires sociaux demandant justement des précisions et demandant à l'INSEE s'il était possible d'affiner un certain nombre d'informations que l'on pouvait retirer des statistiques antérieures. Alors en effet, l'information fondamentale et première peut-être justement, c'est la très grande stabilité du partage de la valeur ajoutée au fil des années, en particulier même au fil des dernières décennies, et surtout bien sûr le partage entre les salariés et on va dire l'ensemble du capital, c'est-à-dire aussi bien les actionnaires que ce que l'INSEE a appelé l'entreprise elle-même, évidemment avec peut-être l'ambiguïté qu'il peut y avoir à ce niveau-là, entre la différence entre l'actionnaire et l'entreprise, et puis les banquiers.
Grosso modo, on va dire... À un niveau de deux tiers, un tiers, c'est ça?
Voilà, grosso modo, on va dire qu'on est à 67% de valeur ajoutée pour les salariés, et donc par conséquent, évidemment, un partage ensuite des 33%, qui est justement celui sur lequel le président de la République souhaitait qu'il y ait réflexion. Hein, c'était ça, évidemment, l'idée, c'était une réflexion en disant, est-ce que sur ces 33% restants, il doit y avoir une modification dans le partage, et en particulier le fait que ces 33% puissent être affectés en partie aux salariés, qui leur permettrait alors d'avoir un intéressement sur le résultat. Hein, donc c'était vraiment la première approche, c'était l'idée de représenter la façon dont les choses avaient évolué. Il est clair que dans l'esprit de beaucoup, on pensait peut-être qu'il y avait eu une évolution au détriment des salariés et au profit du financement, ce qui n'est pas apparu dans le rapport de l'INSEE, même si bien sûr il est compliqué dans ce rapport de véritablement avoir une photo précise de ce qui se passe dans toutes les entreprises.
C'est ça,
parce que là, on a l'ensemble des entreprises.
C'est ça, oui, parce qu'il y a quand même des situations qui sont hétérogènes entre les PME, par exemple, et les entreprises internationales qui, elles, peuvent peut-être un peu mieux tirer leur...
Le rapport Cotis fait d'ailleurs un état des lieux également des situations européennes.
Oui, hein,
et compare la situation française aux situations européennes qui ne sont pas extrêmement éloignées de celles que l'on connaît en France.
Oui. Hein, et... Alors, autre aspect, donc on voit la stabilité. Jacques Marseille dit que, par exemple, que c'est sur un siècle que c'est resté stable. Donc, bon, ça, c'est un autre sujet.
Enfin, en tout cas, ancienne, mais enfin, oui,
ah, c'est une grande stabilité dans le temps, et c'est le premier grand enseignement. Le deuxième grand apport de ce rapport, c'est d'avoir donné à l'ensemble des personnes qui, ou des acteurs qui s'interrogent sur le sujet une base commune et saine. Ça, je pense que c'est un très grand apport. Alors, certains de ces éléments n'apportent pas de grande satisfaction, notamment aux vieilles lunes, par exemple, syndicales, pour ne citer qu'elles, mais aussi tombent un peu à plat par rapport, en quelque sorte, aux espérances que les pouvoirs publics avaient mis dans cette publication pour démontrer qu'en fait, le pouvoir d'achat avait quelque chose à faire avec la répartition de la valeur ajoutée. Et il n'en est rien.
Et pourtant, les points qui sont importants. Alors, c'est vrai que ce rapport qui est très intéressant, mais en réalité, toutes ces statistiques préexistaient. Enfin,
tout à fait.
Moi,
tout à fait.
Ça fait 5 ou 6 ans que dans toutes mes conférences, je montre un graphique du partage de la valeur ajoutée où on voit que c'est stable ces dernières années et que le taux de profit, c'est une autre façon de voir les choses, mais le taux de profit des entreprises n'a pas progressé. Il a même eu, sur la période récente, plutôt tendance à diminuer. Donc, en réalité, on pouvait les trouver, ces statistiques. Moi, un point qui m'a particulièrement frappé, mais là encore qu'on connaissait, mais qui est une confirmation qui est très importante, puisque aujourd'hui, vous parlez de pouvoir d'achat, c'est le fait que les salaires ne progressent pas tous à la même vitesse. Et qu'on est en train de, finalement...
Inégalité salariale.
Voilà, exactement. Si je veux faire très vite, vraiment brosser à grands traits la situation, je dirais que les bas salaires ont relativement bien augmenté ces dernières années, tout simplement parce que le SMIC lui-même, jusqu'à un passé récent, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais jusqu'à un passé récent, avait beaucoup augmenté. Je parle bien des salariés, hein, pas des revenus en règle générale, mais les bas salaires, les premiers déciles de revenus avaient plutôt bien progressé. Les déciles suivants, ce qu'on peut appeler, pour faire vite, même si c'est une expression un peu grossière, les classes moyennes, eux ont très peu progressé. Et là encore, on pourrait aller plus loin en montrant que des situations, même à l'intérieur de ces classes moyennes, sont très différentes. Il est clair que quand vous avez 3 ou 4 enfants, vous avez un revenu par unité de consommation qui a beaucoup moins progressé que quand vous n'avez pas d'enfants, etc. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que tout en haut de l'échelle, et ça avait bien été mis en relief il y a un certain nombre d'années, notamment par le CEPREMAP, on a des augmentations de salaire qui là sont très importantes. Elles sont importantes sur les derniers déciles de revenus, elles sont importantes, ce qui est encore plus spectaculaire, sur le dernier centile de revenus. Et là, alors là, il va encore falloir documenter pour bien comprendre ce qui s'est passé, mais on peut penser qu'on est en train de rejoindre, en termes salarial, en termes de haut salaire, des normes anglo-saxonnes. Alors, je ne suis pas en train de dire si c'est bien ou si c'est mal, mais en tout cas, je sais que ça se passe comme ça, et je sais donc qu'on a une augmentation des inégalités salariales avant impôt, parce que bien entendu, après impôt, surtout en France, c'est un petit peu différent. Et là, puisque vous parlez du pouvoir politique, il y a une vraie problématique. Il y a une vraie problématique, parce que toutes les études, ça fait très longtemps, bien entendu, que les économistes travaillent sur la question des inégalités, tout le monde en arrive à la même conclusion, c'est-à-dire le fait que il y a des inégalités croissantes aujourd'hui en termes de salaire avant impôt. Si on veut les régler, ça se règle moins par une politique fiscale redistributive que par un effort très important en matière de formation. Et là, en France, on a bien sûr du chemin à faire.
C'est un peu ce que dit le rapport. Je lis. La tension actuelle sur les salaires français procède moins d'une déformation récente de la valeur ajoutée que d'un effet volume lié au manque de croissance de l'économie française. Pas de croissance et donc pas de nouveau surplus à partager. Ça me paraît évident. Alors, la deuxième question, puisqu'on est tenu par le temps, qui donc interpelle dans ce rapport, c'est le sujet et les tensions sur les dividendes. Alors, les dividendes ont beaucoup progressé, on va dire, au cours des 20 dernières années, en étant multipliés par 4, en gros. Et donc, certains y voient là des sources d'abus. En réalité, ce n'est pas tout à fait la conclusion qu'on peut en tirer, car en parallèle, il s'est passé des choses sur les fonds propres et sur le redéploiement, on va dire, du financement de l'investissement des entreprises.
Oui,
Philippe Dessertine.
Ce problème est vraiment un problème très intéressant et en même temps délicat à appréhender. Il est évident que l'augmentation des dividendes au sein des entreprises françaises correspond à une évolution dans la manière dont la finance française, mais la manière de financer les entreprises françaises aussi a évolué au cours des dernières années. Il est clair que le renforcement des fonds propres, qui est également une caractéristique forte au cours des 30 dernières années des entreprises françaises dans leur globalité, signifie bien sûr qu'il y a en volume moins d'intérêts, puisqu'il y a moins de dettes financières qui vont être rémunérées, et qu'en contrepartie, il doit y avoir une rémunération des capitaux propres. Mais c'est vrai aussi que cela signifie que l'actionnaire dans l'entreprise française évolue lui aussi, alors que traditionnellement, et la vision que l'on peut avoir, et l'on voyait bien d'ailleurs dans les discussions avec les partenaires sociaux, une vision d'un actionnaire qui va laisser l'ensemble de la richesse produite à l'intérieur de l'entreprise, et là, une vision qui est probablement en train peu à peu de s'estomper, l'actionnaire attend un retour sur investissement, toute la question étant évidemment de savoir ce qu'il va faire de ses dividendes et ce qui va se passer de ses flux. Là, ce sont des problématiques effectivement difficiles et complexes à représenter. D'ailleurs, l'INSEE à plusieurs reprises a dit « il y a des choses que je ne peux pas mesurer », Bon, par exemple, est-ce que ces actionnaires qui prélèvent du dividende le réinjectent dans d'autres entreprises, ce qui est parfaitement possible, et en tout cas l'augmentation des fonds propres suppose bien qu'il y ait une venue provenant, on va dire, de capitaux, par exemple, d'actionnaires anciens, ou est-ce qu'il y a consommation ou utilisation de ces dividendes en termes de revenus ? Donc ce sont des choses très complexes, parce qu'il est évident que là, il peut y avoir deux arbitrages possibles. Celui qui consisterait à privilégier les revenus les plus larges, et par exemple à distribuer les dividendes de manière générale, y compris à des salariés, hein, permettre à des salariés d'avoir des gains plus importants. Ou l'autre problème, l'autre question, qui est le problème du refinancement des entreprises, en disant est-ce qu'on a, par le dividende, la possibilité d'avoir une diversification des financements ? J'étais actionnaire d'une entreprise, les dividendes me permettent d'être actionnaire de deux, et auquel cas, évidemment, là, l'axe à privilégier serait peut-être, en effet, le renforcement des structures financières des entreprises françaises. Et là, ce sont des discussions qui sont complexes, parce que, en réalité, les statistiques ne nous permettent pas d'avoir les réponses totales à cette question.
Mais enfin, l'idée qu'il y avait une corrélation directe entre la cupidité des actionnaires et l'augmentation en volume des dividendes a été un peu quand même balayé, puisqu'en parallèle, si mes chiffres sont exacts, au cours de cette période, les fonds propres des entreprises, les capitaux investis dans les entreprises, sont passés de 831 milliards en 1993 à 1815 milliards en 2006. Donc il y a au moins une corrélation forte entre le volume des dividendes qui ont été versés et les efforts qui ont été faits par les actionnaires. Oui. D'un autre côté, les dividendes représentent la rémunération aussi du risque.
Je crois que vraiment, derrière le discours politique d'un bord ou l'autre, d'ailleurs, qui va dire cupidité ou volonté d'augmentation des salaires de l'autre, ou de choses de ce genre, je crois qu'il faut être bien clair. Quand, on va dire, l'économie française, les entreprises françaises produisent de la richesse, la question, c'est de savoir comment cette richesse peut être recyclée le plus vite possible. Vous voyez, même avant la notion de partage, c'est-à-dire que si les dividendes servent à recapitaliser des entreprises, évidemment, ça n'a pas le même sens que l'idée d'une consommation. On a besoin en même temps de renforcer la consommation, on a besoin aussi de solidifier la structure financière des entreprises. Donc là, les vraies questions à poser, ce sont plutôt celles-là. C'est de savoir exactement comment cette richesse produite peut être orientée soit dans un sens, on va dire, d'injection directe à l'intérieur de l'économie par la consommation, ou est-ce que l'on a besoin de renforcer structurellement des pans entiers de l'économie, en particulier le financement des entreprises. La crise actuelle démontre assez souvent une difficulté, ou en tout cas des fragilités à l'intérieur des financements d'entreprises. Et ça, ce sont des questions qui peuvent être aussi fondamentales à moyen terme que le problème d'une croissance du PIB qui serait traînée par de la consommation. Je dirais, là, on a vraiment des arbitrages important à faire. Il est évident qu'il ne s'agit pas de toucher un élément très sensible comme celui, par exemple, de la redistribution ou de la réorientation de l'épargne vers l'entreprise pour essayer de favoriser de manière très immédiate la question de la consommation et, on va dire, la locomotive de la consommation sur la croissance.
Mais la part en proportion de la distribution de dividendes dans les profits générés par les entreprises est restée relativement constante. Oui, constante. Puisqu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a une partie importante qui va bien sûr aux salariés pour la partie congrue, quelques pourcents, 7%, et l'autre partie qui va donc aux réserves et donc à la croissance et à l'investissement de l'entreprise. Donc voilà pour les dividendes. Je ne sais pas si Nicolas, vous avez un point à reprendre.
Oui, absolument. Je crois que la difficulté de ce type de rapport, en réalité, ce n'est pas le rapport lui-même, c'est très bien de l'avoir fait. En effet, on a une base de discussion qui est saine. C'est plus l'utilisation qu'on en fait. Et moi, je pense que ma crainte, si vous voulez, c'est qu'on en fasse une utilisation relativement constructiviste. Je m'explique. Il ne faut pas oublier que ce rapport a été demandé suite à une déclaration du président de la République qui disait, alors je n'ai plus les termes exacts en tête, mais c'était la règle des trois tiers. Hein. L'idée, c'est de dire, quand une entreprise fait les profits, il faut qu'un tiers aille à l'investissement, un tiers aux actionnaires et un tiers aille aux salariés. Bien évidemment, et j'ai bien entendu énormément de considération pour le président de la République, mais, et puis bon, c'est une parole, on va dire, politique, qui se justifie verbale, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que vous avez des entreprises qui sont dans une situation extrêmement différente. Quand vous créez une entreprise, j'en sais quelque chose, vous réinvestissez tout. Quand vous avez une entreprise mature, c'est pas un secteur comme le commerce de détail avec une forte intensité en main-d'œuvre, eh bien, vous allez en effet pratiquer de l'intéressement sur une échelle très importante. Si vous voulez rendre un peu liquide votre capital, vous allez montrer votre bonne volonté en distribuant beaucoup de dividendes, etc. Donc en réalité, on est face à des situations qui sont extrêmement diverses et je pense que le danger, c'est de faire ce qu'Hayek appelait du constructivisme macroéconomique, ou en tout cas de vouloir de se dire on a les grandeurs, donc du coup maintenant avec nos manettes on va modifier les grandeurs dans un sens qui soit optimal pour la société. Ça n'est pas possible.
Alors, c'est pas possible et c'est pas simple. Enfin, notamment sur l'évolution de la distribution pour les salariés en termes de participation ou d'intéressement, on sait, et le rapport démontre, en tout cas, au moins par les interrogations qu'il pose, qu'il y a des effets pervers sur une augmentation trop forte de ces aspects-là, qui peut, en période donc, de difficultés économiques, se retourner contre l'intérêt des salariés. Alors, en un mot, qu'est-ce que vous retenez, au-delà des éléments qu'on a indiqués tout à l'heure, à savoir que c'était une base saine et que par ailleurs, ça balayait deux ou trois fausses idées et que maintenant les partenaires sociaux doivent se partager, y compris l'État. Donc quelles sont les l'idée majeure que vous retenez l'un et l'autre avant qu'on aille à la conclusion de la production de ce rapport, ce qui pour vous vous paraît le plus important, Philippe Dessertine?
Je crois que deux éléments. D'abord, la discussion maintenant va être lancée sur la question du profit des entreprises. Qu'est-ce qu'on va faire de ce profit? Et c'est vrai que les partenaires sociaux, dans les discussions autour de la commission Coty, se sont révélés d'ailleurs beaucoup plus on va dire complexe que peut-être on aurait pu l'attendre par rapport à la déclaration du président de la République, en particulier par exemple les syndicats de salariés disant nous préconisons une augmentation des salaires et absolument pas un partage, une participation au partage des dividendes par exemple. Donc il y a là maintenant un certain nombre de choses à poser, à dire comment on envisage la distribution du profit. Répétons-le d'ailleurs, quand le profit va revenir, parce qu'aujourd'hui, en période de crise, la question elle est relativement secondaire actuellement. Donc, comment on envisage ce partage du profit? Et deuxième aspect, à mon avis, qui est un point très important, sous-jacent et peut-être pas suffisamment souligné au moment de la remise du rapport, la question de restructuration des financements des entreprises françaises. C'est-à-dire se poser la question comment on fait pour notamment solidifier les entreprises après cette période ou pendant cette période de crise que nous vivons, en faisant évidemment la différence entre les PME éventuellement aussi et les grands côtés, qui ne sont pas du tout dans des problématiques identiques.
Excellente synthèse comme d'habitude. Philippe, je passe la parole pour une minute à notre ami Nicolas Bouzou.
Très bref, le principal résultat, c'est bien entendu cette relative stabilité de la valeur ajoutée qu'on connaissait à peu près. Et cela dit, il ne faut pas prendre les choses, et je le dis sans polémique, mais de façon marxiste, mais au sens de l'analyse marxiste. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des histoires de rapports de force, en réalité, où on aurait des groupes d'agents qui voudraient capter la valeur créée par les autres. Il ne faut jamais oublier que tout ceci se négocie dans les économies modernes de façon très décentralisée au niveau des entreprises. Et je crois que l'effort principal à faire aujourd'hui, c'est l'effort en termes de pédagogie, parce qu'on parle de dividendes, de valeur ajoutée, etc. Il faut quand même garder en tête le fait que nos concitoyens à qui nous adressons connaissent très mal ces termes.
Conclusion sous forme de clin d'œil humoristique, le Conseil d'analyse économique a lui aussi apporté son avis en disant deux choses. La première, qu'il fallait se garder d'aller trop vite sur la reprise en main de ce sujet, de la redistribution, car il y avait des effets pervers extrêmement forts. Il fallait par contre s'attaquer aux rentes de situation. Et le Conseil allait jusqu'à préconiser la suppression complète des grands corps de l'État. Ce qui nous promet des suites et en tout cas un certain délai avant que ces recommandations puissent être mises en pratique. En tout cas, merci à vous deux.
Merci.
Et un prochain rendez-vous pour une chronique économique pour recevoir des experts et les vice-présidents du Cercle Turgot. Merci à vous deux et
merci.
Encore bravo.